Héloïse, aujourd'hui à la une de la science, donc un phénomène intrigant, une faille sismique qui a glissé pendant plus de 7 semaines en Turquie, c'était en 2016, et pourtant ça n'a pas fait les titres de la presse à l'époque.
Ah non, loin de là, ni la presse internationale, ni dans la presse locale, pour la bonne et simple raison que personne n'a réalisé ce qui se passait. C'est la presse scientifique qui en parle plus de 2 ans après. C'est la première fois que ce phénomène est remarqué par les chercheurs en Turquie, et il est relaté dans la revue Earth and Planetary Science Letters. Pascal Bernard est avec nous au téléphone pour nous expliquer de quoi il s'agit. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sismologue à l'Institut physique du Globe de Paris. Alors dites-nous, qu'est-ce que les sismologues ont détecté comme signal en Turquie il y a maintenant plus de 2 ans ?
Alors ils ont détecté une déformation des roches très lente. Alors ça s'est fait avec un appareil qui s'appelle un extensomètre, qui est une espèce de grand tube dont on mesure les déformations. Ce tube est cimenté dans un forage profond. Mmh. Et quand les roches se déforment autour, eh bien le tube est lui-même comprimé dans différentes directions. Et on mesure cette déformation et on a dit qu'effectivement, pendant 50 jours, les roches se sont déformées. Alors, le forage, il s'est déformé de quelques microns, donc c'est tout petit. L'appareil a bien pu détecter. Mais ce qui signifie qu'à l'échelle de 10 km, les roches terrestres se sont déformées de plusieurs centimètres.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on peut employer le terme de séisme ou alors non, parce qu'il s'agit complètement d'autre chose ?
Oui, on peut parler de séisme. On appelle ça souvent des séismes lents. Ces séismes-là, en fait, c'est comme des séismes rapides, sauf que au lieu de casser une faille et de faire glisser les deux blocs de part et d'autre de cette faille à grande vitesse, à 1 mètre par seconde, en envoyant plein d'ondes sismiques qui vont arriver en surface et détruire éventuellement des bâtiments, eh bien, les deux blocs de part et d'autre de la faille vont glisser doucement à quelques millimètres ou micromètres par seconde, voire par minute, ce qui fait que il faut un certain temps, une journée, une semaine, un mois, pour faire les quelques dizaines de centimètres de ces séismes.
Mais Pascal Bernard, je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais parlé de séisme lent dans cette émission. C'est quelque chose de très rare ou au contraire de très banal pour le sismologue que vous êtes ?
Alors, c'est devenu assez banal. C'est quelque chose qui a été découvert un peu sporadiquement dans les années 80-90. C'est l'amélioration des réseaux de surveillance géodésique, notamment avec les grands réseaux très denses de stations GPS, d'antennes GPS, qui permettent de se positionner à 1 millimètre près à la surface de la Terre. Eh bien, ça a permis d'en détecter beaucoup, de plus en plus, notamment depuis les années 2000. Donc, ça fait presque 20 ans qu'on a un catalogue de séismes lents qui augmente d'année en année considérablement et qui nous permet de mieux comprendre ce processus.
Alors en pratique, est-ce que ça permet d'évacuer les tensions en douceur ? Est-ce que c'est bien en fait ? C'est un phénomène bénéfique ?
Tout à fait, ça évacue les tensions en douceur parce que les deux blocs, au lieu de glisser brutalement l'un sur l'autre, ils vont glisser tranquillement l'un sur l'autre et donc le sol au-dessus va juste se déplacer sans vibration particulière. Le problème, c'est que la zone qui glisse comme cela est limitée. Elle peut faire 1 km², elle peut faire 10 km de long, ou voire plusieurs dizaines de kilomètres de long, mais en bordure de cette zone qui glisse tranquillement, eh bien, il y a les zones de la faille, des zones de contact qui restent bloquées. Et ces zones-là, elles peuvent générer des séismes. Et le fait qu'il y ait eu ce glissement lent dans cette partie un peu particulière de la faille, une espèce de zone savonnée, si vous voulez, en quelque sorte, lubrifiée, eh bien, les zones qui ne sont pas lubrifiées, elles accrochent, mais elles sont chargées encore plus par ce mouvement voisin de la faille qui se relâche. Et donc, ce relâchement de contraintes, de forces tectoniques, se reporte sur les extrémités de la zone qui glisse et qui ça augmente la probabilité qu'on ait un séisme sur ces zones.
Donc concrètement, ce qui s'est passé en Turquie, ça pourrait être annonciateur d'autre chose ?
Tout à fait, ça augmente, ça monte évidemment pas énormément, mais ça augmente de manière assez significative les contraintes sur les failles voisines. Alors la question est de savoir, est-ce que les failles voisines, est-ce qu'elles sont menaçantes elles-mêmes ? Il se trouve que dans la région on est au sud d'Istanbul, à 50 kilomètres au sud-est d'Istanbul, dans une zone où une grande faille a été reconnue comme potentiellement dangereuse, puisque ça fait plus de 250 ans qu'elle n'a pas cassé, et elle est chargée à bloc, en quelque sorte. On a prédit sa rupture à l'échelle de quelques décennies. Eh bien, cette petite pichenette supplémentaire peut effectivement la perturber. Cela dit, maintenant, on est en 2019, ça fait pratiquement 2 ans et demi, 3 ans après cet événement. Ces effets de déchargement et de rechargement sont assez temporaires. Si la faille ne réagit pas tout de suite, finalement, l'effet s'atténue et il faut attendre que la tectonique des plaques continue son travail pour déclencher les grands séismes. Donc cet effet temporaire est passé, hein, mais la faille voisine continue à se charger. Voilà. Donc ouais. Heureusement, ça n'a pas été pour ce coup-là.
Pascal Bernard, Héloïse le disait tout à l'heure, 50 jours hein, de séismes lents. Est-ce que c'est du coup, effectivement, dans une zone aussi sensible que la Turquie et le sud d'Istanbul, est-ce que c'est surveillé un peu comme le lait sur le feu quand même ?
Alors oui, alors ce qui est étonnant effectivement, c'est le fait que ça n'ait été publié que 2 ans plus tard. Alors c'est pour plusieurs raisons, c'est qu'en fait il y avait la zone surveillée, elle est un peu plus au nord, elle est sur la faille principale qui traverse la mer de Marmara et qui se rapproche d'Istanbul, à une quinzaine de kilomètres d'Istanbul. Et ça c'est vraiment la zone surveillée avec des stations GPS de positionnement très précis, je vous l'avais dit au millimètre, des sismomètres et d'autres extensomètres. Mais cette zone-là, elle est loin de cet événement, de cette deuxième faille qui est un peu plus au sud. Et du coup, ils sont trop loin pour avoir détecté quelque chose, il y a juste un appareil qui l'a. Et ça, c'est le problème, c'est que c'est le seul appareil qui l'a mesuré. Et du coup, probablement, ça a dû ralentir la publication de cet article et aussi empêcher d'avoir une explication simple et complètement fiable de l'endroit où ça s'est produit.
Oui, c'est ça, vous le disiez, la façon dont ont été prises les mesures, ça ne nous permet pas de savoir exactement où ce coulissement a eu lieu, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on fait une mesure en un endroit donné. La source de la perturbation est en l'occurrence, il propose à une trentaine de kilomètres de là, parce qu'il y a une petite crise sismique, des tout petits séismes en même temps de ce glissement-là. Donc des séismes de magnitude 4,5, donc en gros des failles d'un kilomètre carré qui glissent en faisant des secousses, des petites vibrations non destructrices. Et en même temps, il y a eu ce glissement-là. Mais ce glissement-là, il correspond, s'il se produit à côté de ce magnitude 4, il correspond pratiquement à un magnitude 6, c'est-à-dire à peu près 1000 fois plus d'énergie, mais une énergie qui se relâche lentement, donc pas dangereuse au niveau des constructions. Alors, mais c'est une hypothèse au sens où, comme on a une seule mesure, le même signal pourrait être produit par une source 3 fois plus près et 30 fois moins énergétique. Simplement parce que le champ de déformation décroît très vite avec la distance. Donc on a plusieurs explications possibles. La plus probable, c'est que ce séisme lent ait eu lieu à côté de ces petits séismes de magnitude 4 qui sont concomitants à ce glissement lent. Mais ça peut être décalé.
Du coup, le fait qu'on ne sache pas exactement où le problème a eu lieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas peut-être s'intéresser aux petits villages ou aux villes autour de la faille qui pourraient être dans quelques mois menacées. On est un peu dans le flou sur ce point.
Absolument, oui. Alors ce que je ne sais pas, c'est si mes collègues, alors c'est une équipe germano-turque, hein, si mes collègues turcs ont installé rapidement des mesures complémentaires pour essayer de suivre les effets de ce glissement lent. Ce glissement lent, il a l'équivalent en déformation, en mouvement de bloc de part et d'autre de la faille, d'un magnitude 6. Autrement dit, si la faille avait cassé normalement, sur cette même surface, on aurait dû avoir des destructions dans les villages voisins. Donc maintenant, cette surface-là, elle est libérée, mais effectivement les aspérités voisines qui sont menaçantes.
Et là, on est face à un glissement transitoire. Est-ce qu'il existe dans le monde des failles qui sont toujours en mouvement de manière continue ?
Oui, tout à fait. Alors ça, on sait depuis les années 60 que les failles restent bloquées pour l'essentiel dans la partie superficielle de la croûte, disons les 10, 20, 30 000 kilomètres, mais qu'en dessous, c'est tellement chaud que les failles n'accrochent pas, elles glissent en permanence. Donc on sait déjà depuis longtemps qu'une partie des failles profondes glisse. Mais ce qu'on a découvert dans les années 90 et de plus en plus documenté dans les années 2000, c'est que dans la partie superficielle, là où on s'attendait à ce que toutes les failles soient bloquées, eh bien, il y a beaucoup de failles, beaucoup de surfaces de failles, de parties de failles, qui glissent de manière continue. Alors beaucoup, c'est quand même pas la majorité. Malheureusement, si c'était la majorité, il y aurait beaucoup moins de séismes que ce qu'on a en ce moment. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits qui glissent de manière continue. Et ça se mesure très bien avec les réseaux GPS. Hein. Les réseaux GPS se sont développés dans les années 90. Depuis les années 2000, ils se densifient considérablement. Et donc on voit réellement dans les zones, par exemple au Japon, au Chili ou en Californie, dans les zones de failles très actives, on voit la croûte se déformer. sans séisme. Et ça, c'est indicatif de ce qui se passe en profondeur, là, ce qu'on savait déjà, mais aussi de ces zones de faille qui glissent vers la surface.
Vous l'évoquiez, oui, vraiment, c'est une surveillance à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il y a des zones particulièrement sujettes à ces phénomènes dont on parle ?
Alors, oui, il y a des zones bien sujettes à ça. C'est pour ça que le séisme de Turquie était un peu une surprise. C'est que c'était pas vraiment une zone tout à fait sujette à ce genre de transitoire. On les observe beaucoup plus dans ce qu'on appelle les zones de subduction, qui sont des zones de convergence de plaques, où une plaque essaye de passer sous l'autre. Elle reste coincée au niveau de la faille qui résiste, et puis tout d'un coup la faille casse, ça fait un grand séisme. Mais dans certaines parties de la zone de contact de ces failles, eh bien, il y a des zones qui glissent en continu et qui aussi parfois glissent de manière transitoire, un peu comme ce qui a été vu en Turquie, c'est-à-dire que au lieu de se débloquer au cours d'un séisme, eh bien, elle se débloque sans faire de séisme pendant une semaine, pendant un mois. Elle glisse tranquillement de 10 cm ou de 1 mètre, et ça, on peut très bien le détecter avec le GPS. Évidemment, on ne le détecte pas avec les sismomètres, parce qu'il n'y a pas de vibration.
Merci beaucoup Pascal Bernard. En tout cas, on retiendra que pour évacuer nos tensions en douceur, on peut pratiquer le séisme lent, et ça, finalement, c'est une bonne nouvelle.
Absolument. Ah,
vous êtes d'accord? C'est pas mal. Et puis, je rappelle également que vous êtes l'auteur d'un livre, Pascal Bernard, qui s'appelle « Pourquoi la Terre tremble ? Ces séismes et tsunamis, comment les expliquer ? Est-ce qu'on pourra un jour les prédire ?» C'est un livre qui est sorti il y a un peu plus d'un an chez Belin et qui, bien sûr, est toujours disponible. Merci à vous, Pascal Bernard. À bientôt.
Merci beaucoup.